Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Monsieur Fernand Lopez, bonjour, comment ça va?
Je vais bien, et toi-même, Guillaume?
Ça va très bien, écoute. T'as eu une semaine chargée la semaine passée avec deux grosses annonces pour le PFL. On avait parlé de Jordan Zebo contre Cédric Doumbé, main event donc du PFL Paris, premier événement du PFL à Paris, c'est le 30 septembre prochain, et la co-main event, c'est officiel, Abdul Abdouraguimov au PFL. Fernand, on est entre nous, personne ne nous regarde, personne ne nous écoute.
Qu'est-ce qui... C'est vrai ce mensonge ?
Oui, ah bah oui, là, c'est une petite conversation Zoom comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cette signature d'Abdul au PFL ? Est-ce que ça fait longtemps que vous discutez ? La France veut savoir.
Non, en réalité, ça fait. Vous le saviez déjà. J'en avais parlé en disant qu'Abdul avait reçu une belle proposition à laquelle il avait dit non parce que le premier choix d'Abdul c'était l'UFC, choix qui n'a pas été favorable. Et donc à un moment où on était à quoi? Trois semaines, un mois, il y a deux semaines environ, Abdul m'a dit, bon, laisse tomber, arrête d'attendre et tout, allons-y, allons ailleurs, allons voir autre chose. Et donc, sur tout ce qu'on avait comme proposition, la proposition qui a retenu l'attention d'Abdul, c'était le PFL.
Et par rapport à l'UFC, forcément, la question, j'imagine, financière a dû jouer. Toi, tu places ça en dessous de l'UFC, le PFL, mais qu'est-ce qui fait que c'est intéressant pour quelqu'un comme Abdul?
C'est intéressant parce qu'il y a quand même un challenge. Il y a un challenge de se dire que tu auras gagné un jour. Aujourd'hui, on parle Mansour Barnaoui comme étant le gars qui a gagné le tournoi à 1 million. 1 million, c'est un chiffre rond qui intéresse les gens. Et donc, le fait de le mettre sur le tournoi, directement sur le tournoi à 1 million, avec une très forte bourse en début de contrat, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Mais vraiment, il y a un défi à se dire que, peut-être que c'est un schéma aussi, c'est une manière aussi de prendre une voie différente de ce qu'il avait rêvé. Et il faut savoir ce que je vais dire, c'est que pour être concret, il faut savoir se contenter de, faut savoir apprécier ce qu'on a. La réalité, c'est que ce qu'on aurait voulu, c'était l'UFC. L'UFC n'a pas répondu rapidement. J'ai eu des gens qui même se posait la question, mais c'est quoi cette promesse ferme qui n'arrive pas au bout? Mais voilà, une promesse c'est une promesse, et puis sauf qu'une promesse ce n'est pas une signature de contrat. Une promesse c'est ce que on dit, c'est ce que nous les matchmakers on dit au manager, écoute, là je peux pas encore le signer, mais je pense que quand on retourne à Paris tu auras un truc, c'est marqué par écrit, c'est pas un truc inventé, c'est pas, et quand je dis mes trucs je ne les invente pas, je les envoie, les conversations je les fais suivre à mes athlètes, ils sont au courant, ils savent de quoi je parle, c'est pas, voilà quoi, c'est pas de pipeau, ça ne discute pas. Et il se trouve que non, on a attendu assez longtemps et puis finalement on a cette opportunité. Il faut savoir l'apprécier. Ce que je vais dire par là, c'est que l'aspect pécunier n'est pas ce qui nous retient, qui retient en général les gens de ma team. On est plus axé sur où est-ce qu'il y a le plus gros challenge, où est-ce qu'il y a le sport, où est-ce qu'il y a la compétition, la plus grosse compétition. Et c'est ça qui a attiré Abdul de l'autre côté, c'est ça qui a attiré notre team. Aujourd'hui, concrètement, sur ce qu'on va toucher, on est quasiment sur le quadruple de ce que peut proposer, de ce que nous propose en tout cas L'UFC, et je parle de quadruple, c'est... Non, c'est même pas ça. C'est ouais, beaucoup plus, sérieusement. Donc, il est confortable. Et ça fait déjà du bien de savoir que, mine de rien, une agence de management, c'est aussi ça. Hein. L'agence de management, c'est de faire du chiffre quand même. C'est de pouvoir aller chercher du gros chiffre et tout. En sachant que tu peux faire du chiffre à l'UFC. Si tu patientes un peu, si tu es dans le concours, tu fais des belles performances et tout, tu arrives dans le top 15, le top 10, un mec comme Nassourdine aujourd'hui commence à toucher des vrais sous, tu vois. Mais en tout cas, avoir un gars comme Abdul qui pourra, en milieu de l'année prochaine et tout, s'offrir une très belle maison à Nantes et tout, c'est pas un truc à négliger, tu vois, c'est pas un truc donc c'est une bonne chose. Et puis il y a aussi mine de rien la valorisation de chaque athlète, se sentir valorisé, ça fait du bien. Ne pas avoir de l'écoute, ça peut blesser. Là il se sent valorisé, il est bien écouté. Le PFL a fait des pieds et des mains pour l'avoir, sincèrement. Comment dire, la direction ou en tout cas la gouvernance du PFL est venue à Paris plusieurs fois discuter avec moi pour qu'on puisse avancer dessus sur ce contrat-là, et on a avancé. On est content de l'avoir validé finalement, et on est surtout content d'avoir fabriquer une place à Paris. La fight card de Paris était terminée, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de combat. On a fabriqué une place pour Abdul. Mais vraiment, un mot de, il faut qu'il soit là. S'il accepte de signer avec nous, on va le mettre sur Paris. C'est une bonne chose et tout. Et donc, voilà, il est valorisé à à la hauteur de ce qu'il vaut. Il se sent respecté. Il est content de tous les efforts qu'ils font, les petits détails qui font que tu te sens confortable. Le fait d'aller demander, on a besoin de ton logo, le logo Lazy King, parce on va préparer des vidéos, des contenus spécifiques pour toi, parce qu'on a envie de te mettre en avant, on a envie de... C'est de bon augure, c'est de très bonnes choses. Il n'a pas été signé par, il a été signé par le très haut niveau. C'est pas, sa signature n'est pas passée par le simple enfin, le matchmaker. C'est passé par la gouvernance avec voilà quoi. Donc c'est bien, c'est une bonne chose.
Et pour Abdul, donc là, son premier combat se fait en welterweight. Après, il a parlé justement d'un run chez les lightweight. Pour ça, c'est quelque chose qui est acté.
Ah oui, c'est validé.
Ok.
Il est inscrit pour le tournoi des lightweight. Il est inscrit pour le tournoi à 70 kilos et il va combattre son premier combat à 77 kilos. Enfin, au-delà du le choix s'est fait aussi parce que on était d'accord dans la team que la contrainte de 70 kilos n'est pas facile à faire, et comme c'est un short notice, autant le laisser confortable, qu'il puisse préparer son combat tranquillement à 77 kilos. Ensuite, prendre le temps de s'organiser, de descendre progressivement pour que la descente soit une belle descente. C'est quand même la première fois qu'il va faire de la compétition à haut niveau, à ce poids-là. Donc, c'est intéressant qu'il descende progressivement.
Et vraie question, Fernand, est-ce que pour toi, là, ce qui s'est passé avec Abdul, je veux dire, ça change tes rapports avec l'UFC, mais il y a peut-être un avant-après cet épisode-là.
Non, avec le temps, tu dois comprendre que ce n'est pas comme ça que tu vois le monde des affaires. Il n'y a pas de, faut pas prendre le business comme un truc personnel. Faut pas, faut vraiment voir les choses tranquillement. Il y a beaucoup de personnes que j'ai signées lors de l'ARES 2 qui devait se passer à Bruxelles en Belgique, que j'ai pas ré-signé pour. L'ARES 2 qui a été le vrai deuxième ARES après le Covid, parce que les choses ont changé, parce que la temporalité changeait, parce que j'avais signé des mecs avec des bourses super élevées, parce que à l'époque j'étais directeur sportif de chez Vivendi et ARES appartenait à Vivendi. Quelques mois plus tard, Benjamin et moi, on fait l'acquisition d'Arès. Donc, Arès nous appartient. Les fonds qu'on a ne sont pas les fonds. J'ai dû me séparer des personnes qu'on avait signées avec des très gros montants. J'ai dû arrêter les négociations avec des gens comme Melville Maneuf qui prenait 6 chiffres. Et parce que tu ne pouvais plus, et puis j'ai dû changer le cap. Et moi, il m'arrive aujourd'hui chez Arès que je dis à des managers de manière très sincère, je ne souhaite plus avoir, ne me proposez plus des Brésiliens, ne me proposez pas le Costa Rica, ne me proposez pas la Russie, parce que j'ai, sur mon roster, le quota est dépassé. Et donc, ces personnes-là ne vont pas m'en vouloir en disant, bon, mes affaires, mes rapports avec Arès ne sont plus les bons, parce que non, faut pas prendre ça comme ça. J'ai eu des moments où ça a été compliqué relationnellement, parce que j'ai voulu défendre mes droits avec l'UFC, notamment lors de l'affaire Slim, et cette affaire ne concernait même pas le matchmaker d'en dessous, c'était le matchmaker d'au-dessus, en tout cas des catégories de dessus qui étaient MIC, et donc c'est lui qui était en porte-à-faux. Il était sérieusement en porte-à-faux. Il avait signé quelqu'un, et nous, Arès, on faisait respecter nos droits en faisant qu'il le dessine, quoi, qu'il le sorte du roster. Et donc, du coup, lui, ça le mettait sérieusement en porte-à-faux. Pour autant, ça n'a rien changé. Entre-temps, j'ai re-signé, je crois, 4 personnes. Depuis le temps de Slim, il y a eu Daria qui a été re-signé. Il y a eu vraiment, on a re-signé du monde sur le roster des garçons. Je ne sais pas qui j'ai mis. Il y a eu Nassourdinov qu'on avait remis sur le Contender Series. Il y a eu une série de personnes qu'on a re-signé, ça n'a rien changé, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas bougé quoi que ce soit. Et puis même on a eu un conflit à un moment donné, enfin un conflit, un truc qui était désagréable pour l'UFC, c'était le refus de Taylor de combattre à l'UFC quand l'UFC l'a appelé alors qu'il était champion. Il avait le combat prévu une semaine avant. Le combat était prévu une semaine après et l'UFC nous a fait une demande et on a unanimement, que ce soit moi, que ce soit Taylor, dit à l'UFC qu'on ne pouvait pas parce qu'il y avait cette ceinture qu'il devait faire sur Arès. Ça a piqué Shane à un moment donné, mais ça a pris enfin, quelques jours et ensuite on est reparti aux bonnes affaires. Il m'a demandé qui j'avais dans le roster 66 kilos. Il a failli prendre. Il a failli prendre Damien Lapillus qui était déjà signé, mais la signature n'est pas allée jusqu'au bout parce que l'adversaire de Damien Lapillus a refusé le combat. Il a pris William Gomis pour combattre. Et puis d'ailleurs, c'est le même manager qui est censé être fâché, qui soi-disant est fâché contre moi parce qu'il subit la pression de quelqu'un d'autre. C'est le même manager qui a rebooké William Gomis contre Francis Marshall aux États-Unis. C'est le même manager qui m'écrit rapidement pour rebooker William Gomis à Paris. Donc, les gens s'inventent des histoires en disant n'importe quoi. Ça n'a pas de corrélation. C'est qu'aujourd'hui, je m'envoie des textos pour réserver un truc pour manger avec les matchmakers à Paris quand ils sont là. On a des discussions qui sont au-delà de ce qu'il y a. De ces genres de considérations. C'est que, sincèrement, comment ça fonctionne? Je viens de faire une réunion, par exemple, avec Benjamin, avec les gars de l'UFC Fight Pass, et tu vas avoir Tchi, par exemple, qui est le boss du pay-per-view et le boss de l'UFC Fight Pass, qui va dire, ah putain, j'ai raté mon coup. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je souhaitais vraiment que Jordan Zebo soit à l'UFC. J'ai envoyé des messages et tout à Shane pour lui dire, ce mec-là fait des bons chiffres et tout. Abdul, c'est pareil. Je lui ai dit, parce qu'en gros, lui fait le reporting de l'audience qu'il y a sur l'UFC Fight Pass au moment des passages des athlètes. Et donc, du coup, Shane, il va lui dire, mais non, Zebo, il n'a que 4 combats. Je vais pas le signer. Il dit, bah, c'est dommage parce que vraiment, il fait des, ses scores sont pas mal et tout sur la télévision. Et donc, ces rapports-là, tu peux pas juste du jour au lendemain dire, Je suis mécontent parce que j'attendais une réponse pour que Abdoulaye soit sur Paris et donc je suis vexé. Non, tu n'es pas vexé, tu es vexé de rien. C'est les rapports, ça va et ça vient sur le. C'est juste une option de temporalité de ce qu'il y a. Rappelez-vous que Taylor, il a quand même fait. Il est sorti de l'UFC, on ne savait pas pourquoi. La galérée hors de l'UFC. L'histoire de soi-disant Ali n'existait pas encore. Donc arrêtez de prêter à Ali le pouvoir de dire qu'il est capable de stopper les personnes. C'est que moi, on m'a prêté ce pouvoir-là à un moment donné. Quand Céline Dubé n'a pas signé à l'UFC, il y a eu quand même bon nombre de Français qui disaient que Fernand Lopez, fais pas ça, arrête d'empêcher Cédric de signer, ce qui est une connerie, j'ai pas le pouvoir d'empêcher, faut qu'on se mette d'accord, ou j'ai le pouvoir de l'empêcher de le faire, auquel cas j'ai le pouvoir au moins de signer Abdul, ou de signer Kara Moussou. Si j'ai pas le pouvoir de les signer, je veux pas avoir le pouvoir d'empêcher Cédric d'aller à l'UFC. Et aujourd'hui, c'est à Ali qu'on prête le pouvoir de m'empêcher de signer des mecs. Mais tu as envie de dire, mais comment ça se fait que Ali ait laissé qu'il y ait eu la signature de Daria à l'UFC ou comment ça s'est fait? Pourquoi il laisse ça faire? Parce que tout ça s'est passé après qu'il y ait eu le conflit avec Slim. Ça n'a rien à voir. Et puis, s'il y a un endroit où Ali a le pouvoir, c'est au PFL, hein, c'est pas à l'UFC.
Oui, c'est ça, parce que c'est là qu'il avait le plus d'influence,
Ça
Ali.
dit que c'est vraiment au PFL qu'il a de l'influence. Aujourd'hui, vous voyez bien que sur Paris, on aura trois athlètes qui vont combattre. Enfin, deux athlètes pour le moment, mais certainement trois au final.
Entièrement d'accord. Oui, non, mais c'est plus, moi, c'est vrai que l'interrogation que j'avais, c'est comme ça que t'entretiens des bons rapports avec l'UFC. Je me disais qu'ils pouvaient faire comme un peu ce qu'ils avaient essayé de faire avec Nate Diaz, dans le sens, entre guillemets, te faire une fleur et tu vois que tu leur dises, bon, bah, les gars, y a ce mec-là, ce serait bien de le signer, quoi.
C'est ça, c'est ce qui peut, c'est ce qui, enfin, comment dire, c'est le truc qui peut te gêner, qui peut te mettre mal à l'aise, qui moi m'a mis mal à l'aise, c'est tout. Mais c'est pas un truc sur lequel tu peux pas maintenir rigueur. C'est que moi j'ai une fat card de 12 personnes et tous les jours, tous les mois, j'ai de l'arbitrage à faire parce que j'ai mes matchmakers qui me disent il faut tel tel tel, j'ai tel qui me dit il faut tel tel tel, et puis entre-temps il y a des arrangements avec des organisations ou des arrangements avec des pays où on a des deals de télévision, tu vois que ça s'est réduit beaucoup. Et donc, toi, t'es pas au courant de ça. Ces gens-là ne sont pas au courant de ça. Les mecs vont me demander, mais je comprends pas. Quand tu nous mets un mec de l'Ossétie, c'est un tout petit pays caché dans la Russie, machin. Pourquoi tu ne le mets? Et moi, je sais que j'ai des deals avec eux sur la télévision et que vous ne savez pas. Donc, vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez vous poser des questions, vous allez vous énerver. Mais pourquoi on met un Suisse? Pourquoi on a mis un Belge? Pourquoi pas Abdoul? Pourquoi pas machin? Je n'en sais rien. Et quand je dis je n'en sais rien, je suis sincère. Je suis sincère, c'est pas... Voilà quoi. Voilà, faut pas le prendre mal parce que très rapidement... ça va très vite, hein. Abdoul est dans le meilleur des cas, Abdoul est au PFL pour 3 ans. Dans le meilleur des cas, s'il gagne son million et s'il est champion, 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 bah forcément, ils peuvent le garder. S'il gagne tout le temps, 3 ans. Mais ça va trop vite, ça va assez vite, 3 ans. Et peut-être que même avant, il pourra repartir à l'UFC. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, où il ne faut pas se mettre en rogne et dire n'importe quoi et se mettre en mode énervé, en mode je suis pas d'accord, machin. Non. C'est une entreprise, l'UFC, ils font ce qu'ils veulent. Ils font exactement ce qu'ils veulent. Quand Grand Bol n'a pas réussi à signer Kala Moussou à l'UFC, c'est pas parce qu'il avait un problème avec Shane et que personnellement il était fâché avec Shane. Il n'a pas pu, il a tout donné, il n'a pas pu. Et puis voilà, aujourd'hui, il a le vent en poupe et il a pu signer Morgan Charrière, c'est une très bonne chose. C'est toujours une affaire de temporalité, de tempo, de machin. Et quand tu connais le jeu du management, tu es un peu humble par rapport à ça, parce que tu sais que ça peut très vite changer, que ça peut se compliquer et que
Ouais.
c'est une affaire de casualité à un moment donné. Tu es très humble par rapport à ça. Donc, il y a d'autres enjeux qui sont plus importants que ça.
Tu penses que le PFL, parce que c'est juste ça que je trouve un peu triste avec cette organisation encore aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que ça reste le plan backup. Mais est-ce que tu penses que ça peut devenir une finalité et que dans, bah tu vois, comme tu dis, Abdou, dans 3 ans, il peut aller à l'UFC, mais est-ce que il peut avoir un monde aussi où ils se disent, bah je suis bien au PFL et je re-signe, ou c'est, pour toi, ça reste un passage pour ensuite aller vers l'UFC?
Bah, pour un plan de carrière, pour un plan de vie, tu fais ta vie au PFL calmement. Mais la réalité, c'est que je pense que une fille comme Harrison qui vient du judo, je pense qu'au fond d'elle, elle a envie d'aller défier les filles de l'UFC. Je pense pas que tu t'es satisfait d'avoir gagné plusieurs millions au PFL et tu es content. Ça m'étonnerait en fait. Enfin, le peu de psychologie sportive que je connais, j'ai l'impression que tant que la moitié du roster de l'UFC ne sera pas transféré au PFL, tant qu'ils n'auront pas récupéré tous les athlètes du Bellator, l'UFC, enfin le PFL restera le plan carrière et l'UFC le plan sportif, le plan olympique. Malheureusement, c'est la réalité. C'est comme ça. On est attiré par la compétition. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y ait de l'alternative ou des personnes qui choisissent d'aller sur le plan carrière et assurent leur arrière. Et puis que derrière ça, il y ait la possibilité pour des personnes de faire un autre transfert à partir du moment où ils ont terminé leur plan argent, d'aller sur le plan sportif éventuellement. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, je l'ai dit, tous ces grands noms français qui signent, je vous l'ai dit pour Francis, que c'est un très bon plan pour lui et que du moment où il est heureux, c'est très bien. Je lui ai dit pour Cédric, c'est un bon plan. S'il est heureux, c'est très bien. Il gagne beaucoup d'argent là-bas, c'est correct, c'est bien. Et puis je vous le dis pour que ce soit pour Jordan, que ce soit pour Pépi, que ce soit pour Abdul. Je pense que avoir Abdul Arès, on n'aurait jamais pu payer. Enfin, on s'a. Et putain, il est très très bien payé sur Arès déjà, mais on n'aurait jamais pu s'approcher du budget que lui donne le PFL. Il n'y a pas photo, il n'y a pas, il n'y a aucune chance. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, mine de rien, c'est l'un des objectifs. Le premier objectif d'un manager, c'est d'amener son gars à performer pour qu'il aille arriver à un truc où il sera reconnu comme étant l'un des meilleurs combattants au monde. Mais cependant, la base même du manager, c'est de lui apporter le meilleur rapport argent gagné et boulot fait. Et là, pour le coup, il va battre des records en termes de l'argent gagné et comparé à l'activité qu'il va devoir produire pour gagner cet argent et les contraintes physiques qu'il va avoir. Je pense qu'il est à l'abri pour quelque temps et c'est une très bonne chose. En tant que manager, c'est déjà un boulot, une performance d'avoir fait. Ensuite, il est encore jeune, il a 27 ans, il a le temps d'aller creuser et d'aller faire comme Justin Gaethje a fait. Justin Gaethje aujourd'hui est l'un des gars les mieux payés à l'UFC au point de se payer le luxe d'hésiter à combattre contre Conor McGregor. Justin Gaethje sort juste du PFL, quoi. Enfin, et c'est bien. Et c'est une alternative. C'est quelque chose à avoir en tête.
Alright, Fernand, le gros sujet de la semaine concerne Monsieur Anthony Joshua. Pourquoi Monsieur Anthony Joshua? Parce que oui, il s'est imposé par KO contre Elinus au 8e round, je crois, 8e ou 7e round. Avant ça, il se passait pas grand-chose. Et ce qui est intéressant avec Joshua, c'est que il y a eu 3 défaites pour lui en carrière. On a l'impression que les défaites ont tout changé. On a complètement oublié ce qui faisait son succès avant. Il a changé d'entraîneur depuis, et on n'a plus du tout le même Anthony Joshua. Et toi, je voulais te poser la question, si t'as déjà eu dans ta carrière, tu vois, quelqu'un comme ça, comme Anthony Joshua, où il perd une fois, il perd deux fois, et on voit la même chose, est-ce que t'as cette tentation, un, de tout changer, et de voir peut-être que c'est pas en changeant tout que ça peut s'améliorer, mais qu'il faut quand même changer des choses?
Il faut changer des choses, mais il faut être très prudent. C'est le principe, mais c'est fou, hein, c'est une
Déjà juste,
phrase.
est-ce que juste pardon, est-ce que t'es d'accord avec ça pour Anthony Joshua? Parce que le truc qu'on peut dire quand même, c'est bah, ce que tu dis souvent, hein, c'est la performance valide la méthode. Là, il y a quand même eu un chaos assez époustouflant. Mais bon.
Au-delà du chaos, toi, la performance t'a plu?
Ah, pas du tout. Pas du tout.
Du coup, pourquoi tu parles donc de la performance qui a validé la méthode?
Tu peux dire la finalité, c'est qu'il a, il a quand même explosé le gars.
Oui, mais ça, c'est pas la performance, ça, c'est le résultat qui a validé la méthode. Même moi, je pense que la performance valide la méthode, mais pas le résultat forcément. Là, le résultat, il doit être relatif. Si le mec a fait une belle performance et qu'au final, il a perdu son combat, moi, je trouve que c'est bien. Si le gars, il a fait une mauvaise performance, mais qu'il a quand même gagné son combat, bon, c'est pas toujours une bonne chose. Donc, c'est pour ça que je dis, là, là, ça n'a pas encore validé. On n'a pas une méthode qui a été validée. On n'a pas dit, bon, sportivement parlant, je ne pense pas que, à l'espace de 3 mois, sa nouvelle team lui ait donné le pouvoir du chaos et échangé la donne avec une frappe qui couche son adversaire. Je pense juste qu'il faut envisager toutes les possibilités. Le champ de possibilités est large quand il y a des défaites. Ça peut être parce que la méthode n'est pas bonne et qu'il faut la changer. Ça peut être parce que le coach n'est pas bon, il faut changer. Ça peut être parce que la team n'est pas bonne, il faut changer. Ça peut être parce que l'atmosphère de la team n'est plus la bonne atmosphère et qu'il faut changer. C'est que la team peut être très bien à un moment donné et ne plus l'être à un moment donné. C'est toujours une affaire de temporalité et de la comment dire, l'énergie qui circule dans la team et dans l'écosystème de la team. C'est tellement multifactoriel que moi, je suis impressionné par ces gens qui ont l'œil du tigre de pouvoir déterminer très rapidement qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut changer. C'est très compliqué de savoir, de diagnostiquer ce qui ne va pas sur une contre-performance.
Et tu as des exemples de ça, concrets ?
Bah, les exemples de ça, je ne sais pas. On a eu ce week-end, par exemple, Kali rentre qui a combattu. Et on a Dokos qui était déjà sur quoi ?
3 défaites consécutives, la 4e.
Voilà. Il était déjà sur 3 défaites consécutives chez les poids lourds. Il décide de changer de catégorie. Donc, il change des choses, il bouge des choses. Il n'a pas changé complètement sa team. Il a bougé quelques éléments de sa team. Il a changé de catégorie. Il descend où c'est moins lourd, où ça frappe moins fort. Et devine quoi ? Il se mange un KO où ça frappe moins fort. C'est que le mec, il s'est fait coucher successivement par qui ? Derrick Lewis, Curtis Blade, Gersino et finalement Khalil Rondre, qui est encore plus léger que tous ces 3 frappeurs et qui l'a couché. Comment tu fais pour gérer ça? Comment tu détermines à quel moment ça ne va pas? On parle de Khalil Rondre qui lui-même, à un moment donné, était sur une série de, je crois, 3 défaites, 1 victoire sur ses 4 derniers combats. Il allait très mal et il a remonté la pente. Il avait perdu contre qui, lui? Il avait perdu contre Yon qui était là-bas. Il avait perdu contre Johnny Walker. Et finalement, il a trouvé sa voie. Il est passé partout. Comment il s'appelle? Khalil Rountree. Il est venu même à Paris à un moment donné s'entraîner au MMA Factory. Il est passé en Thaïlande. Il a fait le tour du monde. Il est reparti à Syndicate, son ancienne team. Et depuis qu'il est sur Syndicate, il est sur 4 victoires consécutives.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Comment tu veux expliquer ça? Ce n'est pas logique, ça n'a pas de sens. C'est très compliqué, comme je t'ai dit. Des exemples, j'en ai beaucoup, mais je ne veux pas personnaliser le débat parce que ça porte toujours à confusion de parler de ça. Mais la réalité, c'est que j'en ai vu plein des personnes qui étaient bien dans leur team, qui sont partis de la team, ça s'est mal passé, ils sont revenus dans la team, et des personnes qui n'étaient pas bien dans la team, qui sont partis de la team et ils sont devenus très brillants. On a l'exemple de Tom Dikenois qui est parti de la France à un moment donné, qui est arrivé aux États-Unis, et puis rien n'allait plus. Il a fait des combats qui étaient super moyens, c'était compliqué, alors qu'avec son coach ici à Paris, il s'est débrouillé très bien. Il gagne ses combats, il a tout déchiré Obama, il a fait des performances incroyables en Europe. Il est allé aux États-Unis, il est allé dans l'une des meilleures teams, la Greg Jackson, et ça s'est très mal passé. On a Kalamoussou qui est à l'American Top Team, et ça s'est très mal passé. Quand il est revenu à Paris, sa carrière a pris un nouvel élan. On a Johnny Frachet, qui est aujourd'hui un très bon coach, qui a été à l'American Top Team pendant longtemps. Il est revenu en France, il a combattu pour le MMA Factory. Je l'ai accompagné personnellement en Ukraine. Il était brillant, il a gagné des combats, il était content. Alors qu'il avait une meilleure équipe où il n'a pas pu gagner des combats. Ça veut rien dire en réalité. La réalité, c'est qu'il faut que tu sois bien au moment où tu es, où tu es. Et donc, des athlètes qui soient de Chaumont ou d'ailleurs ou de n'importe où, il faut avoir le courage, si ça ne va pas, d'aller tester ailleurs, d'aller voir autre chose si vous le voulez. Mais je ne pense pas que ce soit la panacée géniale qui règle tous les problèmes. Je pense que il faut prendre le temps de regarder en profondeur ce qui ne va pas. Il faut surtout avoir l'honnêteté de se remettre en question et de creuser et de voir vraiment qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire. Faut pas juste se lancer dans des conclusions très hâtives et tout, parce que la plupart des gens qui vous conseillent et qui vous donnent des qui vous demandent de vous jeter à l'eau sont très très loin de connaître déjà le sport, très loin de comprendre le MMA et très très loin de comprendre votre contexte personnel à vous. C'est très compliqué de comprendre ça. Il y a des mecs comme Laureano Pepi, Laureano Sao Paulo, l'Argentin. Je le vois en souffrance. Je le vois en souffrance à la salle et ça me touche, tu vois. Là, j'étais très content et soulagé quand il a décollé, il y a une semaine pour aller terminer son camp d'entraînement en Argentine. On a fait une séance d'entraînement où, en plein séance d'entraînement, il a craqué, il s'est mis à. Il s'est mis à, il avait des larmes aux yeux parce que sa famille lui manque, parce que c'est très difficile, parce qu'il a une histoire particulière. Il a été élevé avec sa maman dans une histoire très tragique, très compliquée, très pauvre, et tout ce contexte-là lui manque. Alors il prend du plaisir à venir à Paris. Paris a sauvé sa carrière, alors que Paris a tué certaines carrières. Paris a littéralement sauvé sa carrière. Voilà un mec qui combat à l'UFC, qui s'est entraîné. Vous avez des vidéos de Laureano Sao Paulo qui est en train de faire des pattes d'ours aux États, non, au Brésil. Et il y a Alex Pereira qui lui tient les pattes d'ours. C'est vous dire le niveau avec lequel il s'est entraîné. Il s'est entraîné avec tous les grands noms du Brésil. Il a fait vraiment, il a fait le gratin. Et il a quand même perdu des combats, il a perdu pas mal de combats au point d'être viré de l'UFC. Et aujourd'hui, il te dit que sa vie, il n'a jamais été aussi heureux de sa vie parce qu'il est revenu sur Arès, il a fait une série de victoires et puis il a remonté la pente. Tu ne sauras jamais qu'est-ce qui le met de bonne humeur. Tu sauras jamais pourquoi il performe. Effectivement, il y a un peu le rôle des coachs. Effectivement, il y a un peu le rôle de la team. Mais tu ne sauras jamais c'est quoi la vraie clé. De ce qui décolle autour de lui et ce qui lui fait du bien. Faut avoir ça en tête. Tout ce que je demande aux gens, c'est d'avoir ça en tête et de se dire que la seule certitude, c'est qu'il n'y a pas de certitude.
Et pour toi, c'est la clé, c'est quoi? C'est de réussir à identifier quel est le problème plutôt que. Enfin, tu vois, dans le sens, j'ai l'impression que Joshua aujourd'hui, donc je ne le connais pas, je ne suis pas dans ses camps d'entraînement, mais que depuis 2019 et ce qui s'est passé contre lui, il cherche toujours un peu. Il cherche toujours la solution.
Il y a des gens qui, au début de leur carrière, cherchent des solutions. Ils ne comprennent pas leur game. Ils s'entraînent d'une manière. Ensuite, il perd le combat par KO. Il revient, il se dit, je vais améliorer ma boxe, je me concentre, boxe, boxe, boxe. Il revient, il perd le combat par soumission. Ensuite, il repart à la salle, il dit, bon, je vais m'entraîner sol, sol, sol. Il sait pas exactement c'est quoi son style. Il galère, il sait pas c'est quoi son style. Ibrahim Mané. Ibrahim Mané a pendant très longtemps cherché son style. Ce que je vous dis là vient de la bouche d'Ibrahim Mané.
Et on l'a vu aussi, hein, enfin,
Qui
depuis Arès.
d'ailleurs mérite d'être interviewé de plus en plus. Non mais, Ibrahim Mané, son histoire, elle est intéressante. Ce serait bien qu'il se confie et qu'il dise un peu ce qu'il partage un peu avec le monde son expérience. Il comprenait pas son game. Et en gros, un jour, moi je parle avec lui et il me raconte, hein, il me dit concrètement ce qui s'est passé, c'est que j'avais une perception du lutteur. C'est une persécution pour moi. C'était quelque chose qui me hantait. Je me retrouvais à boxer Et au lieu de boxer, j'étais dans la phobie de dire, il faut que je ne tombe pas. Faut pas que je tombe. Si je tombe, c'est compliqué. Et je mettais mon énergie à observer et à lire le moment où je vais tomber. Et ça me bouffait toute mon énergie. Et il dit, je suis arrivé au MMA Factory. Et c'est la première fois où j'ai eu un protocole qui me permettait de me relever en sécurité. Alors, il y a des gens qui sont au MMA Factory depuis très longtemps, qui ne vont pas réussir à se relever en sécurité parce que ça dépend toujours à quel niveau tu combats, avec qui tu as comme adversaire, qui tu as comme partenaire. C'est toujours relatif. Mais en tout cas, pour Ibrahim Mané, ça a marché. Ça a été pour lui, c'est sa révélation. Ça me fait chier que je le dise moi. J'aurais bien aimé qu'il le dise lui. Mais en gros, ce qu'il nous raconte à la salle, c'est le jour où il a combattu contre le Suisse lutteur Suarez, le protocole qu'on lui avait donné, qui est un protocole bateau qu'on fait à la salle, à la fin du game, il a pris une telle confiance à se dire, mais en réalité, j'ai la clé. Si je tombe et que je peux faire ma langouste et que je peux faire le protocole de ramper, aller coller mon dos sur la cage, faire le wall walk, remonter, sortir de là, bon, il peut m'amener au sol le nombre de fois qu'il veut, je m'en moque en fait, il va rien me faire. S'il peut essayer de m'amener au sol et que j'ai la guillotine en plan B pour le mettre en danger, s'il m'a touché, plan A, déplacement, plan B, contre-attaque, défense, guillotine, plan C, se relever, si j'ai ça, je m'organise. Il dit, à partir de là, ma carrière avait un sens. Je voyais vers où je devais aller. J'allais combattre avec un but. Alors qu'avant, je me battais pour gagner tous les domaines. Je me battais comme un fou, je me battais dans la cage, je voulais tout gagner. Je voulais gagner la lutte, le sol, le machin, je savais pas par où, par quel bout prendre. À partir du moment où j'ai eu une ligne de conduite, j'ai trouvé mon chemin et ma voie. Et ça, il y a des gens qui le trouvent en début de carrière, il y a des gens qui le perdent à un moment donné, et il y a des gens qui le retrouvent à un moment donné ou ne le trouvent jamais. J'ai l'impression que des gars comme Anthony Joshua se retrouvent à un moment de leur carrière où ils ont perdu ce qu'ils avaient. Quelque chose qui leur donnait le repère pour le fil conducteur de leur combat. Et qu'à partir de là, il y a eu des doutes qui se sont installés, ils ne sont plus jamais les mêmes. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est ce qui arrive à certaines personnes. Il faut être très prudent. Et ça, ce que je dis là, je le dis à mes élèves. Verbalement, je le dis. Je le dis concrètement, attention. Il faut que tu aies conscience de ce qui peut t'arriver. Tu pourrais ne pas retrouver ce que tu as perdu. Tu pourrais te retrouver à un moment donné où tu bugs parce que tu es encore dans le passé, alors que le combat se passe tout de suite. Il faut qu'on s'entraîne à le faire à la salle et que tu me montres à moi que tu es sorti de ce que tu as eu comme défaite. Il faut qu'on voit là tout de suite à la salle que tu es un conquérant, un dominant, que tu marches sur tous tes partenaires, que tu écrases tout le monde. C'est le testeur pour dire on va aller faire quelque chose. On peut pas juste construire... c'est quoi le film dont on parlait
Oppenheimer.
Oppenheimer. On peut pas aller construire la bombe. C'est pas un bon plan. Hein. Je donne juste un exemple. La bombe H n'a pas été une bonne chose pour l'humanité. On est d'accord. Mais cependant, je vais prendre ça comme analogie. On peut pas aller construire une bombe sans avoir essayé de voir si ça marche. Rien que stratégiquement, les mecs se disent, bon, si je vais m'attaquer au Japon, je les menace. Je dis, je vais vous poser une bombe H. Je la pose la bombe. Elle tombe et ça tombe comme un caillou et ça n'explose pas. Mais je suis ridicule. Ils vont me tuer, ils vont m'arroser. Je suis ridicule. Vaut mieux que j'essaye et je vois si j'ai vraiment le pouvoir de menacer. Et c'est la même chose que j'essaie d'appliquer à la salle en disant, les gars, vous avez les combats qui arrivent. Jordan, William, Cyril, Nassour, Daria, tous ces noms-là qui sont sur les starting blocks pour combattre bientôt. Ce que je leur demande, c'est ne voyez pas en moi, on a fait un sparring très un bon sparring aujourd'hui, et je dis, je stoppe un sparring et je dis, ce que vous faites là ne me va pas. Vous avez d'un commun accord décidé, même si ce n'est pas verbal, je sens que vous avez décidé d'aller pacifiquement. Vous faussez mon jeu. Moi, je suis l'entraîneur. J'ai besoin de quantifier l'effort que tu fournis au moment où tu es en train de frapper. Si tu frappes gentiment, ta dépense énergétique est complètement faussée. Et moi, je vais avoir l'impression que tu as le cardio et tu as l'énergie qui va avec. Si tu frappes gentiment, l'attitude de l'autre est désinvolte parce qu'il n'a pas de danger et parce que le danger n'est pas aussi présent. Et donc, je peux penser que la technique et la stratégie qu'on a mis en place ne marchent pas. Alors qu'en réalité, c'est parce que tu ne lui infliges pas la douleur, la notion de nociception. J'ai besoin que la douleur soit infligée pour voir la réaction de l'autre et quantifier si ça marche. J'ai besoin de voir ta dépense énergétique au bout de 5 rounds, au bout de 6 rounds, pour voir qu'est-ce que tu as sous le capot. Et donc, j'ai besoin que là, actuellement, tu me donnes ça, tu me montres ça pour que je puisse prévoir et prédire l'avenir, ce qui va nous arriver. Ce que j'essaie de dire juste, c'est que si tu te retrouves avec des athlètes qui ne retrouvent pas leur style, leur forme de corps, ce qu'ils veulent à un moment donné de leur carrière, ils pourraient être perdus et tu ne comprendrais pas. Et je pense que le cas de Joshua, tant qu'on n'est pas dans sa team, tant que toi et moi, on ne fait pas partie des petits papiers pour aller faire le diagnostic total du camp d'entraînement, de la préparation physique, de la préparation mentale, de la préparation stratégique, on va spéculer, toi et moi, et on va être perdu. Ce qu'on raconte, ça peut être n'importe quoi. Peut-être que Joshua, il a pris un mauvais KO aux entraînements qu'on n'a jamais vu, et le KO le hante encore et c'est dans sa tête, et qu'il a une appréhension de ça. Peut-être que tu sais pas à quel moment ça s'est déclenché, à quel moment ça a stoppé. Tu sais juste qu'il y a quelque chose qui se passe.
Est-ce que pour toi, la plupart du temps, c'est quelque chose qui est mental? Parce que tu vois, je pensais aux exemples qu'on a pu avoir en MMA et j'ai l'impression que les gars qui ont réussi à faire ce rebond, dernièrement, tu vois, les plus spectaculaires, je trouve, ça a été des Dustin Poirier ou des Justin Gaethje. Et même Charles Oliveira encore plus spectaculaire, où c'est des gars, on les attendait pas à ce tel niveau, et au bout d'un moment, j'ai l'impression, moi, que c'est surtout ça, ils ont réussi à débloquer quelque chose. Ils ont pas vraiment changé de style, mais ils ont réussi à débloquer quelque chose qui fait que un Justin Gaethje est beaucoup plus posé qu'avant. Dustin Poirier, dans le chaos, là où de temps en temps, dès qu'il y avait les mecs qui lui rentraient dedans, c'était compliqué, aujourd'hui, ça fait partie de lui, Charles Oliveira. Il y a aussi un côté où, à chaque fois, il y avait le down. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a le down, on sait qu'il va rebondir aussi, tu vois.
Mental, je ne sais pas. Cognitif, certainement. Il y a toujours une affaire de cognition quelque part. Il y a toujours un truc de cognitif quelque part, soit sur l'aspect psychologique, soit sur l'aspect réflexif. Mais en tout cas, il y a du cognitif quelque part. Il y a de un moment donné où tu dois prendre conscience. Mais il peut avoir, au-delà de la conscience, quelque chose qui est de l'ordre du réflexe et de la phobie. Je prends le cas de Tonton, ou Christian Pombou, dont j'ai suivi et que j'ai accompagné sur la fin de carrière. C'était devenu compliqué parce qu'on avait, j'ai vécu successivement deux KO avec lui qui étaient traumatisants. Et ce chaos qu'il a eu en Suisse nous a sérieusement perturbés, que ce soit lui ou moi, et la suite de la carrière n'a pas été la même, parce qu'il y avait vraiment ce truc où Tonton démarrait et tu disais que c'est 30 secondes de chauffe, mais ça durait 2 rounds, 3 rounds de chauffe, où il était incapable de se déployer, d'envoyer un coup, de faire quoi que ce soit. Et pourtant, aux entraînements, Tonton, c'est une machine de guerre. C'est un tueur. Tu le vois faire d'Espagne avec Francis, guerre mondiale. Tu le vois faire. Tonton et Khalil Rountree se sont entraînés, guerre des étoiles. Il le mettait bien. Mais le même Tonton à compétition, donc c'est pour ça que je te parle de cognitif. parce qu'il y a quelque chose qui était de l'ordre de l'incontrôlable de sa part. Et ce monde-là, même pour des psychiatres, des gens très, des experts du domaine de la psychologie, c'est une science qui est inexacte, où il n'y a pas 1 plus 1 égale 2. Tu ne peux pas savoir. C'est quand on me pose la question. Alors, est-ce que vous avez compris ce qui n'a pas marché pour Cyril John Jones? Et tu dis, je ne sais pas. Les gens veulent que tu mentes. Les gens disent, oh putain, il est dans le déni, quoi. Pourquoi il ne veut pas comprendre que il y a telle chose qui n'a pas marché, ça ne va pas parce qu'il est nul comme entraîneur, parce qu'il y a telle chose qui n'a pas marché. Et tu dis, les gars, je veux bien valider que je suis nul, il n'y a pas de problème, validons ça, ça c'est bon, c'est coché, validons que je suis nul. Je vous demande juste un peu d'humilité, vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas comprendre. C'est juste ça qu'on demande aux gens, de dire, avec toutes les années d'expérience que j'ai vu des cas incroyables de descente aux enfers où tu ne comprends plus, ça perd. J'ai vu le moment où ça remontait, ça perd, ça gagne. J'ai vu, il y a de tout, et bien malin est celui qui est capable de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Je te dis là, si toi, Guillaume, tu me dis que tu sais ce qui arrive à Anthony Joshua, je te dis bravo, t'es un génie. Parce que on prend le cas de là on parlait de Khalil Rountree. Khalil Rountree, il est du Syndicate. Syndicate, c'est John. Le coach du Syndicate s'appelle John. Et John et moi, on a eu des discussions pour comprendre. Non, John, moi et le manager de Khalil Rountree qui s'appelle Markel. C'est le même manager de Francis. Markel, John et moi, on a discuté plusieurs fois sur le cas Khalil Rountree. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a? Comment un mec pète aussi fort à l'entraînement, aussi bon? Comment il fait pour pète les combats? On était choqués, on s'est dit, bon, on sait pas ce qui va nous sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être il est bien là, peut-être il va déconner. Et là, il a retrouvé sa voix. Il est sur un round de malade et où il fait du sale. Il casse des jambes avec des obliques kicks venus de l'enfer. Il met des KO. Enfin, il est vraiment, il a tout retrouvé. Voilà l'histoire d'un mec qui était obèse à la base, qui a fait le MMA pour perdre du poids, qui est passé par le TF et qui est devenu aujourd'hui, et il va finir par faire un run, peut-être arriver un jour à la ceinture. Robbie Lawler, il a combattu à l'UFC, il est sorti de l'UFC, a été viré de l'UFC, a retrouvé sa voie et est revenu à l'UFC. Aujourd'hui, Hall of Fame. Je ne sais pas, je dis juste ce qu'il faut avoir, l'honnêteté et le courage de dire quand il y a des choses qui nous dépassent, qui dépassent notre compréhension, il faut avoir l'honnêteté de dire, on a des faisceaux d'indices ça et là, on peut aller faire un diagnostic comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le cas de certains, si on prend notre fer de lance aujourd'hui du MMA en France, dans son cas, on a fait un vrai diagnostic où on a dit, bon, pour ne rien louper, on va juste tout améliorer et tout remettre à plat et tout et essayer de tout améliorer. Et donc, on a amélioré le système de sparring sur la boxe et tout en allant chercher les meilleurs qu'on puisse avoir en termes de boxe pour le mettre en difficulté. On a ramené des thèmes qui sont différents. On a revu la planification. On est allé chercher en termes de lutte et de judo ce qu'il y a de plus compliqué pour lui, pour s'adapter à son adversaire. On est allé chercher des personnes pour qu'on puisse étoffer son sol avec beaucoup plus d'expérience, avec des gars comme David Pierre-Louis, François Laurent, avec des sparring de qualité dessus. On va vraiment sur l'arrosage automatique de tout, avec des vraies discussions en profondeur, avec des vraies, des vraies mesures et des quantifications de l'effort. On ne laisse rien au hasard, parce que, comme je t'ai dit encore, on est dans un antibiotique à grand spectre qu'on doit utiliser. Parce que si on essaie de cibler, on ne sait pas, on n'a pas l'antibiogramme, on n'a pas un truc qui nous a permis de détecter, de mettre le doigt en disant, ah, c'est bon, on a compris ce qui ne va pas. C'est complexe la performance sportive finalement.
Très clair, Fernand. Merci beaucoup. Je pense que les gens étaient très intéressés par cette analyse du cas Joshua qui a un petit peu dépassé la boxe, encore heureux. Fernand, dernier point, et pas des moindres, ce week-end, il y a Sean O'Malley contre Aljamain Sterling. Quel est ton pronostic, et si tu veux pas te mouiller, comment tu vois le combat se dérouler?
À contre-cœur, je sais que Aljamain va gagner. Je pense qu'il va gagner. J'aime beaucoup Sugar. J'aimerais que Sean O'Malley gagne parce que j'aime bien que ça change, que ça bouge, qu'on ait autre chose, tu vois. Ça va dynamiser les choses. Et puis, c'est l'Europe, mine de rien. Moi, je suis toujours dans cette petite opposition-là entre l'Europe et puis l'Amérique, entre l'Europe et puis l'Amérique latine, le Brésil. J'ai envie que l'Europe se développe en MMA parce que, du coup, quand l'Europe se développe, ça apporte un peu plus de grosse compétition des MMA en Europe et ça apporte un peu plus de lumière sur le MMA français. Je suis pour Sean O'Malley. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il sera short. J'ai l'impression que il va perdre le combat probablement par ground and pound ou par TKO au deuxième round, un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il ne va pas pouvoir gérer la lutte. D'abord, il aura du mal à gérer la boxe non orthodoxe de Sterling. J'ai l'impression que Sean O'Malley est très bon, ultra précis sur des personnes qui ont une boxe classique, une boxe orthodoxe. Et
Sterling?
Sterling a une boxe qui est pas académique. Il a des fans qui fait qu'ils sont bizarres. Il a des trajectoires qui sont bizarres. C'est une trajectoire qui peut lui apporter des problèmes parce que des fois, il va mettre sa tête où c'est dangereux, où il va se prendre un genou. Mais en même temps, ce sont des trajectoires qui lui permettent de mettre beaucoup d'incertitudes et d'aller chercher la fameuse lutte dont il a besoin. Et comme il a une condition physique à toute épreuve, je vois mal O'Malley le stopper. En tout cas, je ne sais pas comment il va faire pour le stopper. Donc, ça veut dire qu'il faut envisager, voir Sean O'Malley gagner à la décision. Sterling, ça me paraît compliqué. Je pense que ça me paraît compliqué.
Je pense aussi.
Malheureusement, à contre-cœur, ouais. je vais aller pour Aljamain Sterling.
Et ben voilà, réponse dans la nuit de samedi à dimanche, monsieur. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.